Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a deux semaines est sorti le film Hitchcock de Sacha Gervasi avec Anthony Hopkins dans le rôle titre. Une occasion pour Franck Ferrand de se plonger dans l'univers du maître du suspense. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce n'est pas la première émission que je consacre à Alfred Hitchcock, réalisateur phare du dernier siècle. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Hitchcock, pour ma génération et pour quelques autres, je crois, c'est une fenêtre, une rear window ouverte sur un milieu de 20e siècle anglo-saxon, tout en élégance et en perversité, une époque intense, sûre d'elle, avec comme médiateur ce cinéma de studio qui à l'époque était une fascinante usine à rêves.
Et vous avez invité pour nous en parler deux grands cinéphiles.
Et oui, on ne présente pas Bruno Crasse, l'homme du cinéma sur Europe 1. Quant à notre confrère Laurent Bourdon, il a signé il y a quelques années un très remarquable dictionnaire Hitchcock chez Larousse. Eh bien, en leur compagnie, je vous propose de nous immerger dans un monde de frissons.
How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock.
Le générique sur Europe 1 de la série télévisée Alfred Hitchcock présente.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
La plupart de ses films, Alfred Hitchcock s'arrangeait pour apparaître à l'écran. Vous savez, l'espace d'un court instant, c'était devenu sa signature, l'un des signes de connivence qu'il adressait au public. On le voyait parfois monter dans un bus ou passer devant un magasin ou figurer sur une publicité pour un régime amaigrissant. De sorte qu'assez vite, pour les spectateurs avertis, trouver Hitchcock dans chacun de ses films est devenu un jeu, un défi. Et de nos jours encore, si vous allez dans les festivals Hitchcock ou dans les rétrospectives, ces irruptions ont toujours un grand succès. Elles sont saluées d'applaudissements et de sifflets complices. D'ailleurs, plus on avance dans la carrière du maître, et plus ses apparitions ont tendance à intervenir tôt dans le film. En effet, Hitchcock avait compris que cette attente de la silhouette connue finissait par distraire les spectateurs du véritable propos du film. Il lui fallait donc apparaître dès le début, juste après le générique, pour désamorcer les faits et permettre au public de se concentrer vraiment sur l'histoire. Alors, dans L'Inconnu du Nord Express, il monte dans le train avec un étui à contrebas. Vous savez, il a du mal à monter au moment où Farley Granger en descend. Dans Fenêtre sur cour, il fait partie des invités du voisin musicien. On le voit d'ailleurs qui met une pendule à l'heure. Dans La Main au collet, il est assis à côté de Cary Grant dans un autocar qui roule vers Nice. Dans L'Homme qui en savait trop, il fait partie des badauds de la place Jama El Fna de Marrakech. Dans Sueur froide, il croise James Stewart dans une rue de San Francisco. Il porte d'ailleurs un étui à corps. Dans La Mort aux trousses, il ne parvient pas à monter dans un bus new-yorkais. Vous savez, la porte se referme devant lui. C'est une des premières images du film. Quant à l'apparition d'Hitch dans Psychose, l'œuvre qui sert de toile de fond au film dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, elle permet de réunir à l'écran dans un même plan le père et la fille. En effet, Alfred se trouve devant l'agence immobilière où travaille le personnage de Janet Leigh. Et celle-ci le croise donc et elle entre dans l'agence où elle retrouve sa collègue qui n'est autre que Patricia Hitchcock. Vous devez me trouver bien savant, Julia, et je vois d'ailleurs ce petit sourire au coin
malicieux
de votre lèvre.
Oui.
Vous vous dites, il est devenu cinéphile en une nuit. En vérité, j'ai mes sources et tous ces détails, je les ai retrouvés dans le dictionnaire Hitchcock de Laurent Bourdon, l'un de mes invités d'aujourd'hui. Il a patiemment répertorié, circonstancié toutes les apparitions d'Hitchcock à l'écran, des apparitions de réalisateurs qui, me semble-t-il, sont assez rares dans le 7e art et témoignent de deux choses. D'une part, la starisation d'Alfred Hitchcock lui-même, qui était aussi célèbre sinon plus que les stars qu'il mettait en scène, et d'autre part, le goût de ce Britannique d'origine pour l'humour et les clins d'œil. On se rappelle ses bandes-annonces, ses interventions dans la série télé Alfred Hitchcock présente, dont on vient d'entendre une partie du générique, ses interviews fantaisistes, bref, ce don de se mettre en scène qui, 33 ans après sa mort, fait qu'Hollywood continue de s'intéresser à lui et comme protagoniste d'une fiction grand public. Si vous avez des questions à nous poser sur Hitchcock, sur ses traits de génie, sur ses travers inquiétants aussi, sur ses films aussi bien que sur sa vie, n'hésitez pas, c'est le moment d'aller sur Internet, nous allons essayer de vous répondre.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous sommes dans l'ambiance sur Europe 1, une ambiance hitchcockienne, psychose.
Vous savez, ça
Franck.
C'est la célèbre scène de la douche
oui.
Qui nous a tous donné des cauchemars. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu Psycho, c'était en salle, Psycho en anglais. Et le public était debout dans la salle au moment où ça devient... c'est quand même, il se passe toujours quelque chose, hein, c'est assez fascinant. Ce film a marqué finalement l'histoire du cinéma, Bruno Kras.
Oui, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, je passe directement parce que...
Au film, bien sûr.
Justement, parce que c'est l'occasion. Cette scène, en écoutant la musique, le son qu'on vient d'écouter, je repense à une scène du film. On voit Hitchcock, après on va parler du film, puisque tout le film, c'est comment il a monté Psycho.
Voilà, oui.
Et comment, à l'époque, la Paramount ne voulait pas le suivre là-dessus. Parce qu'il faisait des films de suspense et pas des films d'horreur.
Il faisait des films d'aventure et de suspense, et... oui, qui étaient d'ailleurs d'une autre inspiration.
Absolument.
On va dire.
Et quand il a voulu se lancer dans Psychose, on l'a pas suivi. Et il a donc, on le voit dans le film, il a donc hypothéqué sa maison. Et d'ailleurs, ça a pesé sur ses relations avec sa femme. Mm-hmm. C'est tout le sujet du film. Et donc, je reviens à cette scène. On le voit à la première, les gens sont dans la salle, peut-être debout, comme vous le disiez, Franck. Lui, il est derrière, il entend cette fameuse musique.
Moi, c'était pas la première, précise aux auditeurs, j'étais pas né quand même.
Et il entend donc ses cris, et on le voit faire avec les bras les mouvements d'un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il est là, il pense à chaque plan du film, et il se dit, là, ils vont hurler, là, le rideau de douche va se défaire, et c'est très drôle de le voir sans regarder dans les coulisses, écouter la réaction des gens. Voilà, ça c'est une des belles scènes du film.
Et en même temps, Laurent Bourdon, dans cette scène, on ne voit finalement pas grand-chose. Tout n'est qu'allusion finalement.
Allusion, on ne voit rien du tout. Justement, avec la censure, il a eu bien des soucis, mais il a pu prouver, effectivement, image par image, des gens de la censure. Code Hays, à l'époque, était encore en vigueur et il a pu montrer qu'on ne voyait rien du tout, même pas une lame rentrant dans... Et ce bruit du couteau qui rentre comme ça dans la peau, c'est en fait un couteau dans un melon, c'est le bruit du couteau dans un melon.
Alfred Hitchcock est un des géants d'Hollywood, un des grands maîtres du cinéma américain, mais il ne faut pas oublier que c'est un Anglais. Et Psycho en est alors vraiment un exemple, hein, c'est-à-dire que tout est dans l'allusion, la circonvolution, la gêne généralisée, et puis alors l'exploration de toutes les perversions humaines. Il y a quelque chose de très britannique là-dedans. Hitchcock était né le 13 août, donc il était du signe du lion, le 13 août 1899 à Leytonstone en Angleterre. On est dans la banlieue est de Londres en fait.
Oui, hein. Et si vous y allez maintenant, vous ne retrouverez rien parce qu'il y a une superbe station service à la place de l'immeuble qu'il habitait au premier étage au-dessus du magasin de fruits et légumes de son papa.
Son père était épicier en gros en fait,
voilà.
Hein, c'est ça.
Oui. Donc, il est mort, il était assez jeune, il avait 14-15 ans et donc après il a vécu avec sa maman, ce qui peut-être...
C'est-à-dire que lorsque meurt le père d'Alfred, Alfred lui-même n'a que 15 ans.
Hein, voilà, donc, 14-15 ouais. ans. Il est mort en 14 et donc il a 15 ans.
Il a été élevé d'une drôle de façon. Il dit qu'une des scènes qui l'a traumatisé, c'est d'avoir vu sa mère un soir de Noël. Il a dû se lever pour regarder si le Père Noël allait passer, sans doute, et il a vu sa mère sortir de ses propres bas, parce qu'ils avaient accroché, les frères et sœurs avaient accroché chacun son bas à la cheminée, et de sortir de ses propres pantoufles des cadeaux qu'elle aurait redonnés aux autres. En fait, elle avait dû se tromper, tout simplement, mais lui, il l'a mal interprété. Hein.
Il l'a mal interprété ou il a bien voulu mal l'interpréter,
oui,
parce
enfin,
qu'il
voilà.
a tellement raconté de choses.
Il a fabriqué sa légende.
Oui, absolument, comme la fameuse légende de « va voir là-bas au coin de la rue avec un petit mot plié dans sa poche pour le policier, et puis le policier prend le papier et le met dans une cellule du commissariat de police le plus proche. Son papa l'avait envoyé comme ça. »
C'est là qu'il aurait gagné ce jour-là la phobie des autorités, en quelque
oui,
sorte.
Oui, sans doute.
Enfin, c'est ce qu'il dit.
Oui, c'est ce qu'il dit. Même sa fille, qui est quand même très Ray, qu'il défend beaucoup et qui a été la gardienne du temple longtemps, explique que sans doute on a dû l'enfermer un bon quart d'heure dans un placard et qu'il en a tiré comme ça des choses. C'était très bien pour parler aux journalistes qui l'interviewaient.
Oui, c'est ça. Et alors, d'ailleurs, c'était des histoires qui revenaient assez régulièrement. Oui. De même que ces rapports assez bizarres avec la religion qui sont censés être nés de son éducation.
Oui, il a été né dans une famille chrétienne. Et il va aller au
catholique,
oui. Et il va aller dans ce lycée Saint Ignatius qui va le définitivement à la fois le braquer contre la religion en général, les prêtres en particulier, les jésuites tout particulièrement. Et puis il a raconté que c'était là quand même qu'était née cette idée du suspense, parce que c'était pas toujours très très sage. Quoi qu'il a eu souvent le tableau d'honneur, paraît-il. Mais enfin ça, il y a des témoignages différents. Et ces bons prêtres promettaient une punition dont on connaissait la violence, parce que c'était des châtiments corporels, mais on savait pas quand ça allait tomber.
Et voilà.
Et cette idée de choses qu'on risquait,
mais on pouvait
y échapper, mais peut-être pas. Voilà, ça c'est le suspense, si je coquin. C'est lui aussi qui a raconté ça souvent, longtemps, énormément, à tous ceux qui lui posaient des questions.
Alors, vous avez dit que son père était mort alors qu'il était jeune, il a dû travailler tôt, il est entré dans une société qui fabriquait des câbles électriques, mais alors lui, il n'était pas dans la partie technique, il était au bureau de publicité, en fait, et donc il devient graphiste, disons.
Voilà, c'est ça, il est très attiré par la publicité, ce qu'on comprendra bien après, hein, puisque...
Le plus grand publicitaire de tous les temps, peut-être.
Voilà,
d'ailleurs, il apparaît aujourd'hui dans des spots de publicité télé, hein, mais enfin, c'est du détournement, c'est autre chose.
Et donc, effectivement, il va travailler dans cette société, puis ensuite, il va apprendre que société américaine, la Famous Player Lasky, va s'installer à Londres et il va proposer ses services pour dessiner ces cartons qui accompagnaient les films muets à l'époque.
Alfred Hitchcock vient de faire ses premiers pas dans le cinéma. Vous allez voir qu'il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be.
Que sera, sera. Nous étions en train de chanter, je dois dire.
Eh oui, c'est un extrait du film L'homme qui en savait trop, ça. Et évidemment, on a tous vibré à ce moment-là. Et c'est intéressant, L'homme qui en savait trop, parce qu'on est justement au cœur de toutes les phobies d'enfance d'Alfred Hitchcock. Hein. L'enlèvement, la mère plus ou moins castratrice, l'interrogation sur la destinée. Enfin, tout est là, finalement.
C'est un Hitchcockophile convaincu, je vois. Et vous connaissez bien son œuvre. Et cette version, c'est la deuxième version, c'est un remake. Il avait fait un film qui racontait à peu près la même histoire, mais assez différent quand même, en 34, oui. En Angleterre. Et là, c'est dans sa période américaine, la version 1956.
Alors, combien de films a-t-il fait en tout et combien de films anglais?
Parce que ça, 57 c'est... films en tout, 29 films anglais.
Oui, ça se partage à peu près à moitié. Ouais, ouais. C'est-à-dire que toutes les premières œuvres, évidemment, sont des œuvres britanniques.
Alors 24 films anglais.
On connaît Jeune et innocent, par exemple, on connaît ces films très, très, très charmants. C'était tout en noir et blanc, évidemment,
à l'époque, oui.
Comment s'appelait ce film où on voit The Lady Vanishes, une femme disparaît. Alors ça, ce sont les derniers, mais il a commencé par des films qui ont surpris, évidemment, parce que esthétiquement, ça n'était pas ce qu'on était habitué à voir.
Alors déjà, on était au temps du cinéma muet, et donc il a commencé en 1925. Il a eu des expériences avant, mais le film était introuvable. Ils ont interrompu le tournage parce que la maison de production était repartie. Enfin bon, bref, il va commencer vraiment sa vraie carrière de cinéaste en 1925, après avoir été l'assistant et avoir rencontré d'ailleurs son épouse Alma, dont on va peut-être parler prochainement.
Et donc, oui, le deuxième grand personnage du film.
Hein. Et interprété par extraordinaire Hélène Mirren.
Hélène Mirren, qui a été The Queen il y a quelques années.
Ouais, ouais. Formidable. Donc, il commence en 1925, film, mais effectivement, il est assez vite, à la fois les distributeurs, les producteurs attendent très longtemps pour sortir ces films parce qu'ils disent mais ça marchera jamais, c'est pas la peine, voilà. Et puis quand ça commence à sortir, en gros à partir de Lodger, qui va être son premier film vraiment Hitchcockien, c'est ça le film qui lui-même, voilà, Lodger, sorti quelques fois en France sous l'appellation Les Cheveux Jaunes, c'est assez
c'est les Cheveux d'or, voilà.
Cheveux d'or, voilà. The Lodger, c'est The Lodger. Bref, voilà, à partir de ce moment moment-là, les critiques de l'époque, les journaux, vont vraiment mettre ce cinéaste en évidence et vont le traiter de génie. Et lui, il va se sentir peut-être un petit peu à l'étroit en Angleterre, justement.
Et justement, Bruno, ce dont on se rend compte très vite, c'est qu'il est particulièrement doué pour faire parler de lui. Il a une silhouette, une façon d'être et de parler qui ne sont pas ceux de tout le monde, en plus.
Absolument. D'ailleurs, on voit à quel point Anthony Hopkins, qui n'est pas si gros que ça, a dû se transformer. Il n'a pas grossi comme on fait d'habitude à l'acteur studio. Il a eu des faux ventres, tout est faux. Un masque en latex sur le visage pour avoir, alors c'est pas exactement Hitchcock, mais bon, c'est proche.
Disons qu'il y a une espèce de dureté de chez Anthony Hopkins qu'il n'y avait pas chez Hitchcock, qui était tout en rondeur.
Oui, et puis un visage un peu plus vulgaire, enfin un peu plus à cette époque-là. Il avait quand même une... vous me demandez pas mon avis, mais bon, bref.
Je n'osais vous le demander, mais puisque vous le donnez, allez-y, je vous en prie.
On n'a ni Hitchcock ni Hopkins, alors on est un peu frustrés, quoi.
On est entre les deux, disons. Pour en revenir à son caractère, je suis pas un grand spécialiste d'Hitchcock, mais ce qui me frappe, c'est d'abord deux choses. D'abord, c'est très rare dans l'histoire du cinéma qu'on dise on va voir un Hitchcock. Voilà. Et là, aucune des stars d'Hitchcock, et Dieu sait s'il y en avait, n'a pu surpasser le maître. On va voir un Hitchcock. On va pas voir Janet Leigh. On va pas voir.
C'est ça
un
qui
autre.
Est étrange.
Voilà. On va voir un Hitchcock. C'est rarissime dans le cinéma et c'est le plus beau compliment qu'on puisse lui faire. Ce qui me frappe aussi, c'est que oui, il a commencé au temps du muet. Il est né en 1899. Je pense qu'il a été très, très frappé par le muet, par le passage au parlant. Il était assez réticent, d'ailleurs. Et je pense que ce qu'il y a de fort dans ses films, et ça, c'est là où on voit que c'est un cinéaste qui a connu le muet, c'est que c'est pas tant les dialogues, c'est que la forme... Et ce qu'il montre à l'image, dans une image ou dans un plan d'Hitchcock, il y a plein de choses à voir. C'est ça qui est fort. Il y a plein de choses à voir et c'est ça qui crée le suspense. Et c'est ça qui crée justement cette tension. C'est que...
Il disait que c'était comme une tapisserie qu'on pouvait regarder un certain nombre de fois.
Absolument.
Pour y trouver à chaque fois de nouveaux détails.
Et puis, il y a un élément qui rejoint un peu son sens de l'humour, son sens de l'autopromotion. C'est que... D'abord, je pense qu'il était surdoué, c'était quelqu'un de très intelligent, et puis son goût pour la comédie. Il dit souvent à propos de son cinéma qu'il y a de la comédie dans son cinéma, et c'est parce que dans un contexte assez insouciant, les personnages, dans un contexte même léger, les personnages prennent quelque chose sur la tête, que ça devient intéressant. Il dit, dans la vie, on passe pas, si à 14 heures il va vous arriver quelque chose de gravissime, on ne passe pas toute la matinée à faire la gueule en attendant.
Oui, parce qu'on ne le sait pas.
On est surpris, voilà. Et
Le film, il faut qu'on le sache dès le début. C'est voilà. Ça le suspense. Hein.
Donc c'est ça le suspense. Et à propos du suspense, vous parliez du suspense avec son enfance. Il fait aussi une autre comparaison, c'est les V1 et les V2. Il disait que pendant la guerre, il y avait deux sortes de fusées. Il y avait les V1, alors on les entendait comme ça, comme un bruit de hors-bord, et puis tout d'un coup il y avait un silence et puis tout d'un coup ça s'écrasait sur Londres, ça c'est le suspense, et puis les V2 on n'entendait rien du tout et boum ça tombait, ça c'était la terreur, et voilà, pour lui c'est très
la terreur, c'était
très intéressant,
c'était moins son affaire, quoi qu'il va l'utiliser dans Psychose précisément. Un gros ego finalement, si on comprend bien Laurent Bourdon, hein.
Énorme, enfin dès la période anglaise il paye les services d'une société pour travailler son image, pour faire parler de lui, hein. Donc c'est quand même rarissime. Donc effectivement un ego important,
un sens des affaires extraordinaire.
Oui, assez, parce que quand on va lui proposer de faire cette série télévisée, il va dire oh ça va bien, moi ça marche bien au cinéma, j'ai pas besoin de faire de la télé. Puis il va relire le contrat qu'on lui propose. Et là,
dit qu'après
tout d'un coup, c'est dit ouais,
ça doit pouvoir se faire.
Ça ne se refuse pas.
Alors ça, c'est le jeune Hitchcock, celui de l'Angleterre. Nous allons parler tout à l'heure de l'Hitchcock américain. On va parler de sa femme, de sa famille, de sa fille aussi, bien entendu. En attendant, j'aimerais faire un point sur un ouvrage majeur, le fameux Hitchcock-Truffaut. Ce sera l'objet du récit.
Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck sur Europe 1 qui s'intéresse à l'ouvrage Hitchcock-Truffaut.
Hiver 1955, Alfred Hitchcock a terminé le tournage de La main au collet, en anglais To Catch a Thief, et il se trouve en France, à Joinville, au studio Saint-Maurice, pour travailler à sa post-synchronisation. deux envoyés des cahiers du cinéma qui sont adeptes de son art. Alors quand on dit ça, ça paraît une oxymore, hein, des critiques des cahiers qui aiment Hitchcock. Ben oui, mais ils étaient très en avance sur leur temps, ces deux-là. Ils ont sauté sur l'occasion pour venir l'interviewer. À l'époque, ce sont des inconnus, ils ne vont pas le rester longtemps puisqu'il s'agit de Claude Chabrol et de François Truffaut. L'anecdote est connue, je cite François Truffaut. Dans l'obscurité, Chabrol et moi, nous nous présentons à Alfred Hitchcock qui nous demande d'aller l'attendre au bar du studio de l'autre côté de la cour. Nous sortons, éblouis par la lumière du jour, et tout en commentant avec enthousiasme, l'enthousiasme des vrais cinglés de cinéma, les images hitchcockiennes que nous venons de voir, nous nous dirigeons droit devant nous vers le bar qui se trouve là à 15 mètres. Sans nous en rendre compte, nous enjambons tous les deux, du même pas, le mince rebord d'un grand bassin gelé, de la même couleur grise que le bitume de la cour. La glace craque aussitôt et nous nous retrouvons dans l'eau jusqu'à la poitrine. Hébété, je demande à Chabrol. Et le magnétophone, il lève lentement son bras gauche et sort de l'eau l'appareil tout dégoulinant. Comme dans un film d'Hitchcock, la situation était sans issue. Le bassin étant incurvé en pente très douce, il nous était impossible d'en atteindre le bord sans glisser à nouveau. Il fallut la main secourable d'un passant pour nous tirer de là. Enfin, nous sortons et une habilleuse que nous croyons compatissante nous entraîne vers une loge afin que nous puissions nous y déshabiller et faire sécher nos vêtements. En chemin, elle nous dit « Eh bien, mes pauvres enfants, vous êtes les figurants du rififi chez les hommes ?»« Ah non, madame, nous sommes journalistes. Alors dans ce cas, je suis désolé, mais je ne peux pas m'occuper de vous. » C'était la première rencontre entre Hitchcock, Chabrol et Truffaut. Ce n'était pas la dernière. Dès l'année suivante, au cours d'une conférence de presse à Paris, Hitchcock reconnaît les deux garçons au milieu du parterre des journalistes et il leur lance « Messieurs, je pense à vous à chaque fois que je vois des cubes de glace qui s'entrechoquent dans un verre de whisky. » Ce que Truffaut devait apprendre plus tard, c'est que Hitchcock avait pris l'habitude de raconter l'anecdote à ses amis à Los Angeles et qu'il avait un petit peu arrangé l'histoire. Et il les décrivait sortant tous les deux du magasin à costumes des studios, l'un habillé en curé, l'autre en agent de police. Dans l'émission que je faisais il y a quelques années, Légende de l'été, Claude Chabrol était venu me parler de cette relation privilégiée qu'il avait eue avec Hitchcock.
Il était très gentil, je sais pas, il m'aimait bien, je sais pas pourquoi.
Il,
parce que j'étais très aimable, chaque fois qu'il venait à Paris, il me faisait signe. Quand il faisait un dîner au Fouquet's pour sa Légion d'honneur, il m'invitait, enfin des trucs comme ça.
Et quel genre de personne était-il dans la vie comme ça?
Il était un peu ridicule.
Ah oui, c'est-à-dire?
C'est formidable parce que il jouait la dignité.
Mmh.
Et alors en même temps, il
y a une sorte de componction comme
oui,
ça.
C'est ça, hein, c'est ça, il y a une espèce de componction, mais c'est une componction entièrement fabriquée. Et il savait qu'on voyait qu'elle était fabriquée. Il parlait très lentement. Mmh. You know. Ouais. Alors il a appris le français peu à peu, avec un accent à couper au couteau, parce qu'il voulait absolument se doubler dans les Alfred Hitchcock présents, vous savez, les.
Oui, bien sûr, les séries télé, là, oui. Mmh.
Bonsoir.
Il
voulait absolument que ce soit lui qui le fasse.
10 ans plus tard, François Truffaut, et non pas Claude Chabrol, devenu lui-même cinéaste, ils vont le devenir l'un et l'autre, adresse une lettre à celui qui, de son côté, est devenu un monstre sacré du cinéma. Certes, la critique est toujours réservée à l'égard d'un réalisateur connu pour ses succès énormes au box-office, mais en 1965, on peut dire que Chabrol et Truffaut ne sont plus les seuls, il s'en faut de beaucoup, à avoir pris la mesure du génie hitchcockien. Alors je cite François Truffaut. « J'ai écrit à Monsieur Hitchcock pour lui proposer de répondre à 500 questions portant exclusivement sur sa carrière considérée dans son déroulement chronologique. Et je proposais que la discussion portât plus précisément sur A. les circonstances entourant la naissance de chaque film, B. l'élaboration et la construction du scénario, C. les problèmes de mise en scène particuliers à chaque film, D. l'estimation par lui-même du résultat commercial et artistique de chaque film par rapport aux espoirs initiaux. » Eh bien, la réponse ne tarde pas à arriver d'Hollywood et c'est un oui. Truffaut propose que les entretiens aient lieu en présence d'une traductrice parfaitement rompue au vocabulaire cinématographique, ce sera Ellen Scott. Le premier entretien a lieu le 13 août 1965, le jour même des 66 ans de Hitch, dans le bureau du maître au studio Universal, et ce n'est pas une petite interview. Elle va durer de 9h du matin à 6h du soir. Et même tarif, le lendemain et les jours suivants. En vérité, c'est un véritable marathon verbal, selon ses propres termes, que François Truffaut va enregistrer peu à peu derrière l'entretien professionnel. C'est une sorte de confession très intime qui se dessine. De nouveau Truffaut. Progressivement, j'ai remarqué le contraste entre l'homme public sûr de lui-même, volontiers cynique, et ce qui me semblait être sa vraie nature. Un homme vulnérable, sensible et émotif, ressentant profondément, physiquement même, les sensations qu'il souhaite communiquer au public. Au final, ces entretiens vont donner naissance à un document captivant, un des livres les plus réussis que je connaisse, le célèbre volume Hitchcock-Truffaut, publié et republié par les éditions Ramsay. Un miracle d'érudition, d'humour, d'intelligence, où l'on trouve par exemple cet échange entre le réalisateur anglo-américain et son jeune confrère français. C'est à propos du film qui restera peut-être, à mon avis, bien plus que Psychose, comme le chef-d'œuvre d'Hitchcock, La mort aux trousses, en anglais North by Northwest, avec Cary Grant, Eva Marissin et James Mason. La question de François Truffaut. J'aimerais que nous parlions maintenant de la grande scène où Cary Grant est seul dans le désert, qui commence longtemps avant l'arrivée de l'avion. Cette scène muette dure 7 minutes, ce qui est un tour de force. Celle du concert à l'Albert Hall dans L'homme qui en savait trop dure 10 minutes, mais elle est soutenue par la cantate et l'attente d'un événement que nous connaissons d'avance. Je crois que la vieille tradition dans ce genre de scénario aurait été de recourir au montage accéléré, de présenter une succession de plans de plus en plus courts, alors qu'ici, ils restent parfaitement égaux dans leur durée. Réponse d'Alfred Hitchcock. Oui, car dans ce cas, il ne s'agit pas de manier le temps, mais l'espace. La durée des plans est destinée à indiquer les différentes distances que Cary Grant doit parcourir pour se couvrir et surtout à démontrer qu'il ne peut pas le faire. Une scène de ce genre ne peut être entièrement subjective car tout irait trop vite. Il est nécessaire de montrer l'arrivée de l'avion, même avant que Cary Grant le voie, parce que si le plan est trop rapide, l'avion ne reste pas suffisamment longtemps dans le cadre et le spectateur n'est pas conscient de ce qui se passe. Voilà, je ne sais pas si je vous ai donné envie d'aller flâner, butiner, grappiller dans le Hitchcock Truffaut, mais si c'est le cas, je me dis que je n'aurais pas perdu mon après-midi.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Un extrait sur Europe 1 de la BO du film Hitchcock.
Alors, à l'instant, Laurent Bourdon me faisait remarquer une erreur dans ce que je viens de vous dire, puisque les entretiens, les tout premiers entretiens entre Hitchcock et Truffaut n'ont pas eu lieu, dites-vous, à l'été 65, mais à l'été 62, ce qui nous rapproche de la période de ce film, justement, de ce film sur Hitchcock, puisqu'on est très peu de temps là, après le tournage des Oiseaux. On est dans un Hollywood qui est en pleine transformation, il faut le dire, au tournant et au début des années 60, Bruno Kras.
Oui, absolument. Et ce qui est intéressant, alors, pour ce film, il faut pas être langue de bois, il y a pas mal de spectateurs qui ont réagi en disant on est un peu déçus, c'est pas Hitchcock dans son travail, c'est par la petite histoire. Mais en même temps, le cinéma, c'est toujours des petites histoires qui racontent la grande histoire. Alors, il fallait que le film soit universel. Le cinéma, c'est un point de vue, et ce point de vue rend forcément l'histoire universelle.
Quand on connaît le producteur d'Hitchcock, ça tombait bien.
Voilà.
Universal.
Et il se trouve que ce film, l'intérêt de ce film, c'est que même si on n'est pas un fan d'Hitchcock, même si on ne connaît pas Hitchcock, c'est une très belle histoire, parce que c'est l'histoire de... Derrière chaque grand génie, il peut se dissimuler quelqu'un, ça peut être une femme, en l'occurrence c'est une femme, mais quelqu'un d'autre. Et toute l'histoire, ancrée quand même dans l'histoire cinématographique, c'est au moment où il trouve ce roman d'horreur, c'était Robert Bloch, Psycho, et il veut faire cette histoire et il étonne tout le monde et il est obsédé. D'ailleurs, c'est un peu too much dans le film. Il est obsédé par cet assassin. C'est à partir de l'histoire vraie d'un assassin qui a tué sa mère.
Le livre est inspiré par cette histoire.
Absolument. Tout est parti d'un fait divers
qui
obsède Hitchcock. Et à partir du moment où il va vouloir faire cette histoire, la Paramount va le lâcher. Il va hypothéquer sa maison et tout ça pour raconter ses rapports un peu compliqué quand même avec sa femme, qui est Alma, qui est à la fois, je crois qu'il y a une phrase célèbre où il dit, il y a quatre femmes importantes dans ma vie, ma scénariste, ma monteuse, la mère de mes enfants et la cuisinière qui fait, voilà, et c'est la même, c'est elle. Donc elle est très importante dans sa vie. Et évidemment, elle
mais
est
on
là.
Mais on n'en avait jamais tant parlé de cette Alma, Laurent Bourdon.
Non, elle est restée dans l'ombre, c'est vrai. Et c'est vrai que son nom n'apparaît pas d'ailleurs au générique de tous les films de Hitchcock. Il apparaît sur des génériques d'autres réalisateurs dans la période anglaise. Elle a commencé monteuse. Elle est née un jour après lui. Elle est née le 14 août 1899.
Vous avez exactement le même âge, donc.
Absolument. Elle devient monteuse. Script, c'est là qu'ils vont se rencontrer sur les films de Graham Cutts quand il n'est pas encore cinéaste et que Michael Badcon les envoie en Allemagne tourner les films de Graham Cutts. Et donc Hitchcock est assistant, elle est les scripts. Lui, il va découvrir Murnau, le dernier des hommes, Emil Jannings. Enfin bon, le cinéma muet allemand va beaucoup l'inspirer, l'expressionnisme allemand. Au retour, il va lui déclarer sa flamme et lui proposer de l'épouser. Et comme elle est malade en bateau, sa réponse est un petit peu octante. Oui,
c'est-à-dire qu'en fait, elle a le mal de mer voilà. Et il lui demande sa main et elle répond par un rot.
Voilà, c'est ça. Je m'en dis pas de faire la réponse en direct. Et donc voilà, alors ils vont effectivement se marier en 1924, par là, donc avant qu'il devienne cinéaste. Et puis, elle va accompagner sa carrière, elle va écrire des scénarios avec lui. Quelques mauvaises langues prétendront que son nom au générique, quelquefois, explique un deuxième salaire pour la famille Hitchcock et qu'elle n'aurait pas fait grand-chose. Bon, ça dépend des
certains
films.
Certains disent exactement l'inverse,
voilà,
d'ailleurs.
Voilà, absolument. Et puis, c'est très compliqué quand deux personnes écrivent un scénario ensemble. Qui a écrit ? C'est comme Bolo et Narcejac qui a écrit et qui... Bon, donc, c'est compliqué à savoir.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été totalement éclipsée, écrasée, évincée par la stature de son mari.
Hein. Déjà physiquement, regardez tous les deux. Quoi. C'est forcément, il y en a un qui fait un petit peu plus d'ombre.
Ouais, ça, c'est certain. Et au moment, à la fin de sa vie, quand elle aura une attaque cardiaque, il va quitter le tournage de Frenzy.
Frenzy, hein. Voilà, oui. C'est ça. Il va tout arrêter. Il va partir avec dans l'hélicoptère qui l'emmène. Enfin, il est très, très à son écoute.
Bruno Kras.
Et donc, il prépare Psychose. Là, on voit qu'elle intervient, que c'est sa conseillère. Alors, ça, c'est sans doute de la fiction. Mais par exemple, lui, il lui fait lire son scénario où il fait mourir l'héroïne. Maintenant, il n'y a plus de suspense pour Psychose au milieu du film. Et elle le lit.
C'est quand même très inattendu. On n'a jamais vu une chose pareille.
Oui, sauf que
la principale héroïne du film qui meurt au milieu, c'est terrible.
Sauf qu'elle lui dit, c'est bien, mais mon cher Hitch, il faut la faire mourir dès la 38e minute. Et carrément, lui, elle va encore plus loin que lui. Et alors, tout le film, et j'en aurais fini sur le pitch du film, tout le film, c'est que cette femme qui est dans l'ombre en souffre un peu, c'est en tout cas ce qu'imagine le metteur en scène, et surtout, elle voit sur son bureau, elle a l'habitude, d'accord, mais un jeu de photos comme un jeu de cartes, où il y a toutes ces belles blondes, quoi. Alors, ça pardonnez-moi l'expression, ça la gonfle un peu, parce que peut-être qu'il n'agit pas Hitchcock, mais en tout cas, non. Il est fasciné. Alors, il dit qu'il aime sa femme, mais alors, il est fasciné.
On a le droit d'aimer sa femme et d'être fasciné par les belles blondes.
Oui, alors laquelle il va choisir, Janet Leigh, peut-être une autre, etc. Et alors, le metteur en scène imagine qu'elle se laisse un petit peu aller, et à ce moment-là, il y a un peu un bel âtre, voilà, qui a envie d'écrire un film avec elle, sur une cabane au bord de la plage, et elle va sur cette cabane, elle lâche un peu Hitchcock, qui va se retrouver comme un gamin sans elle, qui va piquer sa crise de jalousie. Et alors, moi, je vais quand même vous dire la réplique, parce que je la trouve extraordinairement drôle, même si c'est pas Hitchcock qui l'a dite. À la fin, il lui dit des choses gentilles. « Alma, vous êtes la femme de ma vie, sans vous je ne ferai rien, etc. » Et elle répond « Ça fait 30 ans que j'attends que vous me disiez ça. » Et Hitchcock dit à ce moment-là dans le film « C'est pour ça qu'on m'appelle le maître du suspense.
» C'est un peu facile, mais en même temps, il fallait voilà, qu'il la fasse.
Voilà, absolument. Donc voilà, c'est cette histoire des relations, en fait, Hitchcock. C'est pas sur Hitchcock, c'est à ce moment-là, au moment de la préparation de Psychose, l'histoire des relations d'Hitchcock avec sa femme.
Nos auditeurs, et j'ai envie de dire plutôt aujourd'hui nos auditrices, n'arrêtent pas de m'envoyer des questions à propos de justement cette fascination pour les blondes. Elle est si réelle que ça? En tout cas, il faut reconnaître qu'il a toujours choisi de grandes actrices blondes pour interpréter.
Oui, notre invité a peut-être une explication. Moi, je la connais pas, l'explication profonde. c'est les blondes mythiques, c'est toujours des blondes, c'est Grace Kelly, c'est... Voilà, il a une fascination pour les blondes. Je sais pas s'il y a un secret derrière ça.
Il a une fascination pour les blondes, mais pas n'importe quelle blonde. Il n'aurait jamais fait tourner Marilyn Monroe, par exemple, qui est justement dans ses entretiens.
Il veut des blondes froides.
Voilà, c'est ça.
Pas
qui n'affichent pas leur sensualité,
voilà, leur sexe, il
leur
pas de
sexe sur le visage.
Il aime les beautés froides, quoi, disons.
Voilà.
Bon, alors dans un instant, avec vous, nous allons revenir, Laurent Bourdon, sur toute cette période américaine que nous avons pour l'instant laissée un peu entre parenthèses. Merci beaucoup, Bruno Kras, d'être
Merci
venu nous
vous.
Donner votre point de vue et d'être nous avoir tout simplement donné envie d'aller voir ce Hitchcock.
Extrait sur Europe 1 du film Psychose.
Psycho en anglais. Alors on a parlé beaucoup, enfin un peu, de la femme d'Hitchcock. On n'a pas parlé de sa fille, Patricia Hitchcock.
Patricia Hitchcock est donc sa fille unique qui va apparaître dans certains de ses films. Qui a une
on
volonté...
la voit dans la colline du Nord Express avec cette scène des lunettes notamment.
Voilà, hein. Par exemple. Elle n'est pas toujours bien servie par son papa quand elle va vraiment vouloir faire devenir comédienne, vraiment, pas uniquement chez papa. Elle va faire du théâtre, il ne viendra pas à la première. Il a des rapports un peu compliqués aussi avec
mais
sa fille.
Finalement, il a des rapports compliqués avec tout et tout le monde, écoutez, et d'abord avec lui-même.
Et puis avec sa maman aussi, pour commencer.
Ah oui.
Et avec lui-même, évidemment.
Personnage bourré de complexes et de... C'est peut-être ça qui fait la richesse d'une œuvre, finalement, vous voyez.
Bah évidemment, là, il y a à travailler là, sur le personnage.
Alors, à la fin des années 30, il a donc déjà produit... Enfin, pas produit, mais réalisé 25 films en Angleterre. Hein. Le dernier, c'est La Taverne de la Jamaïque, qui est un charmant film, mais dont le moindre qu'on puisse dire est qu'il n'a pas grand-chose d'Hitchcockien.
Non, dans lequel il n'apparaît pas, d'ailleurs, non plus.
Et cette fois, il traverse l'Atlantique.
Et voilà. Parce que il se sent un petit peu à l'étroit à Londres. C'est évident que le cinéma anglais est déjà vampirisé par le cinéma américain. Il ne sait pas bien s'exporter, ce cinéma. Et donc, il se dit, là, je perds un peu peut-être mon temps. Donc, il langue depuis les années 35-36. Mm-hmm. Il regarde un petit peu outre-Atlantique. Et puis, il se trouve qu'il y a un certain David O. Selznick qui, aussi, tient l'a remarqué. Se dit,
Selznick, c'est
pas.
Un des grands patrons des majors hollywoodiennes. Hein.
Voilà, il va passer de l'un à l'autre. Il a travaillé, on voit son nom sur King Kong, enfin bon bref, et puis évidemment ça va être autant n'importe le vent, justement quand Hitchcock arrive à Hollywood pour un film sur le Titanic, ils s'étaient mis d'accord pour un film sur le Titanic, ce qui épate beaucoup les journalistes, mais il explique que les icebergs ne lui font pas peur puisqu'il a fait tourner Carole Lombard, donc absolument aucun problème. Donc et puis finalement c'est trop cher le film, Selznick trouve que ça va pas. Et donc, ils vont évidemment se mettre d'accord sur ce film très britannique, puisque ça se passe... C'est un auteur anglais, évidemment. Rebecca, donc le premier film...
Le film, c'est Rebecca, oui.
Rebecca, d'après un roman...
Nomination aux Oscars, pour une fois.
Oui. C'est le producteur qui va avoir l'Oscar du meilleur film puisque Hitchcock ne l'aura jamais cet Oscar. Il aura à la fin un Oscar pour l'ensemble
Oscar
de son
œuvre,
voilà. Mais il n'aura jamais. Il aura 4-5 nominations, mais il n'aura jamais l'Oscar. Et ça va être le début de sa carrière américaine avec Rebecca.
On peut pas dire que le duo Hitchcock-Selznick soit très harmonieux. C'est le moins qu'on puisse dire.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils n'ont pas les mêmes habitudes de travail. Quand Selznick veut passer la nuit à réfléchir, à Hitchcock dans un coin s'endort à moitié. Il ne supporte pas cette mainmise du producteur. Il était beaucoup plus libre, évidemment, à Londres. Là, il y a vraiment le rôle du producteur qui est important, qui envoie des mémos interminables. Et d'ailleurs, dans les années 70, il va raconter devant un public d'étudiants qu'il est encore en train de lire le dernier mémo que lui a envoyé Selznick. Enfin, bon, et ils vont se détester assez cordialement.
D'ailleurs,
plus
dans
cordialement.
Fenêtre sur cour, qui est un film absolument merveilleux. Il y a un autre film, d'ailleurs, je ne sais plus quel auditeur nous dit « J'adore la corde ». C'est vrai que c'est une sorte de prouesse technique, hein, puisque c'est un film d'un seul plan. Enfin, quasiment.
Non. Même à la projection, il y a des changements de plan, mais il y a un plan sur deux, il y a une bobine sur deux qui est cachée par un passage.
Donc c'est très
harmonieux.
Coulé.
C'est très coulé, voilà. Donc c'est très compliqué à tourner.
Presque comme une pièce de théâtre à laquelle vous assisteriez en direct. Mais pour ce qui est de Fenêtre sur cour, il va faire du l'affreux bonhomme là, qui est en train de scier sa femme dans la baignoire. Il l'appelle Cézanne.
Imagination. En tout cas, il lui donne cette apparence vraiment la silhouette de Raymond Burr, homme de fer.
Homme de fer.
Et qui est donc ce méchant voisin, ressemble vraiment terriblement à Selznick, c'est vrai.
Il est évident que la date de l'arrivée de Hitchcock aux États-Unis n'a pas facilité son intégration, si l'on peut dire, parmi les réalisateurs américains, puisqu'on est très peu de temps après son arrivée, c'est la Seconde Guerre mondiale. Or, lui est britannique quand même, n'oublions pas.
Très critiqué par les Anglais, et en particulier ce Michael Balcon, producteur qui va être aussi très important dans les années 50 avec la création de Ealing Studio, vous savez, Noblesse Oblige, cette école du cinéma humoristique anglais, c'est lui. Et donc, il va y avoir des échanges un peu vifs entre lui et Hitchcock, qui est là-bas, mais il n'a pas un physique à aller vraiment dans les tranchées ou enfin aller faire la guerre. Donc, il va quand même participer à l'effort de guerre de son pays en retournant à Londres pour deux films de propagande qui sont tellement plus hitchcockiens que de propagande qu'ils ne sortiront jamais, qu'on les verra vraiment dans les années 70-80,
ces
Bons Voyages et Aventures Malgaches, qui sont, c'est intéressant à voir. Non, bien sûr,
c'est intéressant pour les cinéphiles, on va dire.
C'est tellement, ça met tellement en doute en plus le bon résistant qui devient finalement pas tellement... Bref, donc pour ce qui est de la propagande, c'était pas son truc.
Ce qui est étrange avec Hitchcock, c'est que les grands classiques viennent finalement tard. Alors je sais que vous avez, vous, Laurent Bourdon, une prédilection pour les derniers grands films anglais, surtout sur les films des années 30, mais les grands classiques, c'est-à-dire Vertigo, c'est-à-dire La mort aux trousses dont je parlais tout à l'heure, plus tard, un peu plus tard, Les oiseaux, c'est les années 50 et le tournant des années 60.
Les années brillantes d'Hitchcock, effectivement, avec tous ces films qui, effectivement, vont faire le tour du monde. Et il a eu une période d'adaptation. Sans doute, ses premiers films sont très britanniques. Il va petit à petit devenir américain.
Il devient plus américain que les Américains. Il y a quelque chose dans cette pellicule, à partir du milieu des années 50, de très spécifique, avec notamment ces couleurs acidulées dont il sait jouer mieux que quiconque, lui qui a été le maître du noir et blanc. Ça aussi, c'est une transformation qu'il a su parfaitement assumer.
Absolument, mais il y revient alors pour Psychose, puisque, et même Psychose, qui est un film vraiment, vraiment américain, il va faire imprimer des affiches qu'il va mettre devant les cinémas pour dire vous ne rentrerez pas dans cette salle une fois le film commencé, la projection entamée. Personne, je dis bien personne, ne rentrera dans cette salle le film commencé, ni le président des États-Unis, ni le frère du directeur de la salle, ni la reine d'Angleterre. Il pense encore à ça, d'Angleterre.
Et il faisait d'ailleurs, dans Psychose, il y a toute cette publicité, cette opération publicitaire qui consiste à dire surtout quand vous aurez vu ce film, taisez-vous, ne dites pas aux autres comment ça se passe.
Il faut dire que c'est la première fois que Hitchcock a vraiment la possibilité de faire la promotion qu'il veut.
Voilà.
Avant, il donnait un peu son avis, mais c'était le studio qui... Bon, là, il est producteur vraiment, et il va vraiment mettre en place cette communication incroyable autour de ce film étonnant.
Et il va être, à partir de là, on peut dire qu'il devient, pour le coup, lui, un grand classique. Il y a aussi, comme toujours, une période un peu moins faste, les tout derniers films. À partir du Rideau déchiré, c'est un peu moins réussi, peut-être. Ça devient un vieux monsieur.
Un peu moins réussi. Voilà, les derniers films de Chaplin ne sont pas non plus les meilleurs. Les derniers films de René Clair non plus. Mais il y a quand même des moments, même dans Rideau déchiré, même dans Complot de famille. Imaginez-vous quand même que le dernier plan de Complot de famille, qui restera son dernier film, est une dame qui fait un clin d'œil à la caméra en remontant un escalier. Le premier plan du premier film d'Hitchcock, c'était des dames qui descendaient un escalier.
C'est assez extraordinaire. Laurent Bourdon, Dictionnaire Hitchcock, avec une préface de Claude Chabrol. C'est aux éditions Larousse. Bonjour Rebecca. Elena.
Ça me va pas si mal, Rebecca. Vous savez que j'aurais pu être icône d'Hitchcock, même si je ne suis pas blonde.
Vous n'êtes pas tellement blonde.
C'est un peu le souci, ça.
La vraie Rebecca, on ne la voit pas dans le film.
Alors, Franck et vous tous, avec les experts aujourd'hui, nous allons peut-être vous rappeler des mauvais souvenirs, ceux que vous avez vécu avec vos enfants, votre enfant qui ne dort pas. Peut-être que vous vivez cet enfer en ce moment, et c'est un véritable enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions. Il est possible de retrouver le pays du sommeil. Jusqu'au terminus, sans arrêt. On en parle avec les experts Europe 1. Et surtout, posez-nous vos questions au 39-21, c'est 34 centimes d'euros la minute, ou sur europe1.fr.
À mon avis, vous allez faire des heureux. À demain, Julia.
À demain, Franck, sur Europe 1.